sont enfermés dans une maison de redressement, ils ont été pénalisés de quelque chose, ils ont rien. Rien. Par contre, une petite dame de 88 ans cette année, elle, par contre, va lui bloquer ses comptes. Hein.
Je suis obligé de conclure, ma chère Marie-Christine. Voilà. Donc, tenez-moi au courant, tenez-nous au courant de la suite des événements.
Voilà, j'avais dit à Julia à l'époque que je vous aurais rappelé, voilà le résultat.
Très bien. Écoutez, on vous embrasse bien fort, on vous souhaite plein de courage.
Merci beaucoup.
Embrassez votre mère pour nous et puis tenez-nous au courant, d'accord?
Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bon courage à ceux qui se battent contre
ces institutions.
Les hommes, des femmes.
Au revoir.
Et des pauvres gens, voilà.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier, au revoir.
Minuit sur Europe 1. Dernier tour de l'info avec Maël Hassani. Bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La piste terroriste semble totalement écartée selon une source policière. Un homme a poignardé deux personnes sur les quais de la Garonne à Bordeaux peu avant 20h ce mercredi. Il y a un mort et un blessé grave. Les victimes sont de nationalité algérienne. L'assaillant a d'abord tenté de prendre la fuite avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Ses motivations restent floues, mais le point de départ pourrait être un différend lié à la consommation d'alcool des deux personnes attaquées. Une élue de la République dort en prison cette nuit. La maire d'Avallon, dans l'Yonne, est mise en examen et placée en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. 70 kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne et plusieurs milliers d'euros en liquide ont été retrouvés chez elle, à l'hôtel de ville et dans la pharmacie où elle travaille durant une série de perquisitions menées dimanche dernier. Les deux frères de l'élu, déjà connus de la justice pour des affaires de drogue, sont également écroués. En tout, 5 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Les opérations auront duré 10 jours. Les recherches des restes du corps du petit Émile ont pris fin. Annonce du parquet d'Aix-en-Provence. La centaine de gendarmes mobilisés après la découverte du crâne de l'enfant disparu l'été dernier au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence auront donc retrouvé des vêtements, des dents et un fragment osseux appartenant au garçon. Mais pour le moment, aucun de ces indices n'a permis de comprendre les raisons du décès d'Émile. Un déficit public à 5,1% du PIB en 2024 au lieu des 4,4% prévus. Bercy revoit ses ambitions dans sa nouvelle trajectoire de finances publiques révélée ce mercredi. Mais pour atteindre cet objectif, même plus modeste, l'État devra faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année, en plus des 10 milliards déjà actés. Le travail avait débuté après la crise migratoire de 2015. Le Parlement européen a adopté il y a quelques heures le pacte Asile et Migration. Il contient une dizaine de textes et prévoit un filtrage obligatoire des arrivées aux frontières de l'UE, mais aussi un mécanisme de solidarité pour répartir les migrants entre États membres. La présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen, salue un énorme pas pour l'Europe. Le Premier ministre hongrois parle, je cite, d'un autre clou dans le cercueil de l'UE. Le FC Barcelone remporte la première manche face au Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions de football. Le club catalan s'est imposé 3-2 sur la pelouse du Parc des Princes, mais c'était le match aller. Tout est encore possible pour les Parisiens, mais ils n'auront pas le droit à l'erreur mardi prochain au Camp Nou à Barcelone. Dans l'autre match de la soirée, toujours en quart de finale aller, l'Atlético Madrid a gagné 2-1 contre le Borussia Dortmund. Et puis le premier astronaute non américain à atterrir sur la Lune sera japonais. Annonce du président Joe Biden aux côtés du Premier ministre nippon en visite officielle à Washington. Cette première historique pourrait avoir lieu en 2026 à l'occasion de la mission Artemis 3. En échange, Tokyo s'engage à fournir aux États-Unis un rover lunaire ultra sophistiqué. Vous écoutez Europe 1, il est minuit 3, la suite de la Libre Antenne, c'est jusqu'à 1h du matin et c'est avec Olivier Delacroix.
Merci mon cher Maël, on vous souhaite un bon retour à la maison, une bonne nuit, de beaux rêves et puis à demain.
À demain Olivier.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
4 minutes, vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. N'oubliez pas la grande interview d'Europe 1 CNews demain avec Sonia Mabrouk qui demain matin recevra Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. C'est à partir de 8h10 et cette interview, la grande interview d'Europe 1, vous pouvez la retrouver du lundi au jeudi à partir de 8h10 sur Europe 1 dans la matinale de toute la rédaction d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko et tous les journalistes qui composent cette belle et grande rédaction d'Europe 1. La grande interview, c'est à 8h10 avec Sonia Mabrouk. Nous accueillons maintenant Lily. Bonsoir Lily.
Oui, bonsoir Olivier, comment ça va?
Ça va et vous?
Bon, écoute, ça va, un coup de bourdon, ça passera.
Que se passe-t-il Lily? Pourquoi il y a un coup de bourdon?
Ben, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais être plus précise quand même, parce que sinon, vous allez devenir célèbre ou moins. Alors, quand j'étais petite, j'étais violée par mon père, j'avais 5 ans, il en a profité que ma mère allait accoucher. Fumier, pardon, excusez-moi, mais ça me fait du bien de dire.
Oui, mais vous avez raison, ça fait du bien, ça fait du bien.
Ah oui, ça,
moi, j'allais dire autre chose.
Oui, dites-moi.
Non, mais
qu'est-ce que vous alliez dire, ça fait du bien?
Enfoiré, j'allais dire. Voilà.
Oh, c'est gentil, enfoiré. Mmh.
Ouais, mais je ne peux pas me permettre de dire plus loin. Mais qu'est-ce que ces hommes ont dans la tête pour faire des choses aussi horribles que ça, quand même?
Mais attends, et mon frère qui avait dû me voir, qui avait dû voir ça, ben il a fait la même chose.
Alors que vous aviez quel âge? Il a fait la même chose.
J'avais 5-6 ans. Mais ils sont morts tous les deux. Hein. Écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question?
Non,
tout
mais
de suite,
votre frère, il a fait ça dans la foulée, très vite. Il vous a agressé très vite après?
Quelques jours après, oui, absolument.
Et quel âge il avait, votre frère, quand il fait ça?
Ben écoutez, on avait 5 ans de différence, donc il avait 5 ans de plus que moi.
Il avait 10 ans, donc d'accord.
Non mais tu te rends compte?
Oui. C'est fou.
Oh, il y a de quoi tomber. Mais je sais pas pourquoi, je me sens toute traumatisée ce soir. Alors que ça fait longtemps que c'est arrivé.
Oui, mais peut-être vous avez écouté la libre antenne et peut-être entendu le premier témoignage ce soir de Stéphie, non?
Oui. Bah, maintenant que vous me le dites, bah oui, absolument.
C'est normal, vous avez entendu parler et évoquer des histoires d'inceste et à chaque fois, je pense que ça vous fait remonter tout ça. Hein,
Là, c'est remonté vite fait, hein.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a continué
Mon père, il a continué, oui. J'en ai parlé à ma mère, qui est restée très froide par rapport à ça.
C'est-à-dire?
J'ai pas eu de commentaires, rien.
Rien du tout? Rien du tout.
Non. Non, mais tu te rends compte?
C'est fou.
Je vous tutoie parce que c'est plus facile.
Vous faites ce que vous voulez, Lily. Vous inquiétez pas.
Mais, tu peux me tutoyer si ça t'amuse.
D'accord. Mais en fait, ça a donné une enfance comment, tout ça?
Pas terrible.
Oui.
Mais il fallait que je m'en sorte, alors j'ai fait comme si tout allait bien. Je fais toujours comme si tout allait bien, moi. Mmh. C'est mon défaut.
Parce que vous avez continué donc à vivre chez vos parents. Ensuite, l'enfance et l'adolescence, elle s'est passée là-bas, chez vos parents?
Mais absolument. Bon, j'étais quand même en pension chez les bonnes sœurs, mais pas du tout à cause de ça. Parce que, sinon voyante, elles devaient aller dans une école d'aveugles. Alors, mes parents habitant Orléans, j'allais à Paris, quoi.
D'accord.
Non, mais c'est fou, hein.
Ben oui.
Et ce soir, ça me revient. Mmh. Inceste, c'est un très vilain mot.
Mais vous avez atterri chez les bonnes sœurs, vous me disiez?
Oui, normal.
Pourquoi normal?
Parce qu'il fallait que j'aille en pension dans une école.
D'accord. Donc, bah, oui, mais c'était quand même mieux d'être à l'abri.
J'étais gentille. Ouais, c'était mieux.
D'être à l'abri de ce monstre-là.
Oui, absolument. Qui crève fumier.
Et,
d'ailleurs, il est mort.
Donc, du coup, en fait, à vos 18 ans, comment ça a impacté votre vie en tant que femme, Lily, tout ça?
Difficilement. Difficilement. C'est même maintenant, c'était pas, c'est-à-dire que, bon, ben, à mes 18 ans, la majorité n'a rien changé pour moi, vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais en revanche, pour mon premier rapport sexuel, c'est tombé sur un mec génial.
D'accord.
J'avais 20 ans. Mm-hmm. C'était un mec génial. On est toujours restés amis, d'ailleurs, on s'entend encore bien.
D'accord.
Et c'était bien, c'était sympa, c'était plein de douceur, c'était cool.
Et donc, vous, ça a été votre compagnon ou votre fiancé pendant un moment?
Il a été mon petit ami.
D'accord.
Un bon petit moment, oui, oui, puis on est restés amis, quoi.
D'accord. Encore aujourd'hui, vous êtes amis?
Avec mon copain, avec celui dont je vous parle, oui.
Ah, c'est super,
ça. Il est marié, il a un gamin, mais tout va bien, quoi. Pas pour moi, mais je ne sais pas pourquoi ce soir. Oh là là, il ne faut plus que j'écoute des choses comme ça.
Non. Et après, ça s'est passé comment, après, dans votre vie de femme?
Pas terrible. Bon, je ne suis pas frigide, il ne faut pas déconner non plus.
Vous n'êtes pas quoi?
Mais je ne suis pas frigide, mais il ne faut pas déconner non plus. Ce n'est c'est pas terrible quand même, quoi.
Oui, vous avez réussi à vous marier ou à faire votre vie ou...
Oui,
d'accord.
Oui.
Et vous avez eu des enfants?
Oui. J'ai eu un gamin.
D'accord.
Il a... il a 40 ans. Mais déjà, mais tu te rends compte, 40 ans, il a le petit merdeux.
Ben oui. Et vous avez quel âge, vous m'avez dit?
69,
d'accord.
Je fais 69 années érotiques.
Et vous êtes dans quelle région, Lily?
À Paris.
D'accord. Donc, la vie est belle quand même ou pas?
Oh, ça va. Non, je ne vous dirai jamais que la vie n'est pas belle parce que ce n'est pas mon style. C'est pas pour éviter de me plaindre. C'est parce que j'ai décidé d'être résiliente tout le temps. Mmh. Même si ça ne va pas, je me dis, allez, la ferme, tu vas t'en sortir quand même. Et c'est ce que je fais.
C'est bien ça. Vous êtes une battante en fait.
Ah oui, celui qui me tuera, il est promené.
Et donc, du coup, à Paris, vous faites quoi? Vous vous occupez quand même? C'est sympa, la vie à Paris?
Un petit, ouais, la vie à Paris a toujours été sympa. Bon, je reconnais que je ne sors pas suffisamment. Enfin, vous voyez, si vous voulez, je me suis cassé la figure dans un escalier. Et depuis, j'ai un peu les boules pour sortir, quoi. Mmh. Mais enfin, je n'en meurs pas. Puis je suis très bien dans ma petite maison.
Vous avez une maison à Paris?
Non, c'est un HLM.
Oui, oui.
C'est un petit 30 mètres carrés.
D'accord.
C'est ma petite maison pour rigoler.
D'accord.
Bon, mais ce soir. J'ai un défaut, je prends tout. Mais ce soir, j'ai le bourdon, ça ne va pas.
Ouais, ça, voilà. vous a fait remonter tout ça. Mais ouais.
Oh là là, ça m'a tué.
Ouais, quand vous tombez sur un témoignage comme ça, passez-le, écoutez de la musique un moment et revenez plus tard parce que.
Ah ben, il y a intérêt.
Ça ne peut que ça ne peut que vous replonger dans tout ce que vous avez vécu.
Ça va raviver tout ça, il n'en est pas question.
Et comment avec votre père tout le long de votre vie? Vous ne l'avez plus vu ou ça s'est passé comment?
Il a toujours vécu avec ma mère, donc je l'ai revu tout le temps.
Oui.
Il n'y a pas eu d'agressivité entre nous parce que c'était pas la peine, quoi. Mmh. Et puis c'était compliqué parce que ma mère me maltraitait et mon père était gentil. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Votre mère était jalouse de vous, sans doute, non?
Vraisemblablement. Mmh. Peut-être que ça y évitait de passer à la casserole quelque part.
Allez savoir.
Absolument.
Oui, c'est fort. C'est, vous savez, c'est toujours très délicat et très mystérieux, justement, les rapports sexuels et ce genre de vice. Quand c'est chez quelqu'un comme ça, vous savez pas finalement comment il se comportait avec votre mère, hein, cet homme-là.
Oh, ma mère m'a dit qu'il la violait, mais je lui ai répondu que j'en avais rien à foutre.
Oui.
Tant qu'à faire, j'avais envie d'être méchante.
C'était pas la folle ambiance entre vous et vos parents, visiblement.
Non.
Bon.
Non, ma mère me foutait des claques, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Ah oui, donc elle était vraiment méchante avec vous.
Oui, quand j'étais un peu adulte et que j'en parlais, je disais que c'est ma salope de mère.
Oh là, bah oui, ouais. Donc ouais, c'est vraiment, c'était pas long, les bons rapports entre vous, hein.
Non, mais quand je la voyais, on s'entendait bien. Enfin, voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Je faisais tout pour que tout marche bien, quoi.
Oui. Pourquoi, en fait, vous faisiez ça?
Eh ben, je me demande, figurez-vous. Mm-hmm. Je crois que je voulais la paix. Ça sert à rien de se taper dessus, ça sert à rien. Il faut que les choses soient faites. Ça sert à rien, quoi.
Enfin, quand même, c'est quand même, sont des gens qui se sont, qui auraient pu vous briser, hein, ça. Hein
Je me demande si j'ai pas été brisée ce soir, ça va pas, quoi.
Oui, vous me donnez quand même l'impression d'être quelqu'un de fort, hein, quand même, Lily.
Oui, le premier, oui, le mec qui me tuera, il est pas né.
Oui, non, mais le mec ou la femme, hein, c'est.
Mais, oui, celle qui me donnez quand même l'impression. Celle qui me tuera n'est pas née.
Ah oui, vous me donnez quand même l'impression d'être quelqu'un de fort et de. Enfin, vous tenez debout, quoi.
Mais j'ai pas le choix.
Bah, non, vous avez pas le choix, mais parfois, vous savez, quand on vit des choses comme vous avez vécu, c'est pas évident.
Oh oui, entre. Hein? Entre ma mère qui me foutait sur la gueule et mon père qui faisait.
Vous aimez bien dire des gros mots, hein? Vous aimez bien dire des gros mots.
Oui, ça fait du bien.
Hein, ça fait du bien. Hein. Là, ce soir, vous vous lâchez, quoi.
Hein? Ah, complètement. Ça fait du bien, les gros mots. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien, les gros mots?
Bah, ça dépend. Oui, de temps en temps, c'est vrai, ça fait du bien.
Mm-hmm. Je ne devrais pas sur la l'antenne.
Non, mais vous faites que c'est la libre antenne, hein, vous faites comme vous voulez. Mais
Ça fait Coluche, quoi. Vous voyez, je vais me la jouer Coluche ce soir. Coluchette, petite Coluche.
Ça fait voilà. Ça vous fait du bien, en tout cas, visiblement. Bon, mais écoutez, Lily, ça va aller quand même?
Mais j'ai pas le choix.
Bon.
Je vous appelle parce que je me dis que ça va me calmer.
Oui.
Enfin, ça va me calmer. Vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Ça va me détendre et peut-être que j'arriverai à dormir quand même.
Vous allez arriver à dormir. Là, vous allez écouter la fin de la libre antenne. Hein,
oui.
Et puis, ça va bien se passer. D'accord?
Oui, si on me parle de viol, je coupe. Hein.
Voilà, exactement.
J'écoute autre chose, je ne sais pas quoi, mais pas ça.
Mais là,
vous ne m'en voudrez pas si je vous zappe.
Non, mais là, le prochain témoignage, ce n'est pas une histoire de viol. Donc, écoutez.
Ah, super.
D'accord?
Super.
Bon, ben, je vous embrasse, ma petite Lily.
Oh, il est mignon.
Bonne fin de soirée.
Je veux qu'on m'aime. Voilà.
Au revoir, Lily.
Je vous embrasse beaucoup, moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Belle île en mer. Séparés petits enfants.
Belle-Île en mer, Marie Galante de Laurent Voulzy à minuit 20 sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. N'oubliez pas votre rendez-vous demain matin, deux rendez-vous avec Pascal Pro sur Europe 1. D'abord l'heure des pros de 9h à 9h30 en co-diffusion avec CNews, et puis ensuite de 11h à 13h, pour vous donner la parole, parce que comme le dit Pascal, le plus important c'est vous, pour participer à Pascal Pro et vous, appelez dès maintenant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, et laissez votre message. Pascal Pro et vous, c'est tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1. Nous accueillons Christine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Christine.
Bonsoir Olivier, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil à vous.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Christine?
Alors, je vous appelle d'Alpes-Maritimes, j'ai 55 ans. Et je vous appelle pour ma maman.
Pour votre maman?
À qui on a coupé les droits sans raison à la sécurité sociale. Depuis plus de 2 ans, enfin, ça c'est ce que je sais, depuis plus de 2 ans, je m'en suis rendu compte en voulant imprimer une attestation pour qu'elle puisse prendre une mutuelle.
Oui.
Et là, droit fermé.
Droit fermé, donc, d'accord.
Oui, donc on appelle la sécu. Et on nous dit, c'est tombé sur elle, ça tombe de temps en temps comme ça, on fait des contrôles, et puis est-ce que votre maman n'est pas partie à l'étranger, du grand n'importe quoi. Ma maman a 82 ans, elle a toujours vécu en France. Et puis... En plus, maintenant, elle a des problèmes de santé, donc elle peut pas se faire soigner. On ne sait plus comment faire. On a envoyé les papiers qu'on nous a demandés, les papiers d'EDF pour prouver qu'elle habite en France.
Oui.
Et c'est incompréhensible.
Vous n'avez aucune explication.
J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme nous sur Internet. On nous dit on fait des contrôles comme ça et donc on coupe. Donc si je n'étais pas allée sur Internet, en fait, je l'aurais jamais su. Elle a rarement des problèmes de santé. Le dernier problème de santé qu'elle a eu, c'était en 2019, je crois. Elle s'était brûlée la main parce qu'elle a une polyarthrite, donc elle avait lâché le bain-marie, donc elle s'était...
Oui.
Depuis, elle a plus de problèmes. Elle avait plus de problèmes de santé, et puis maintenant, ça s'est accumulé. Voilà, elle s'est fracturée le poignet. Donc, elle a dû payer aux urgences. Elle aurait besoin de soins de kiné.
Oui.
Elle a des douleurs. Voilà, elle aurait besoin d'aller chez le dentiste. Elle a cassé ses lunettes, elle n'y voit plus.
Et là, ces droits sont fermés complètement.
Oui, oui, oui.
C'est fou. Et sans que vous n'ayez la moindre explication.
Sans explication.
Et dans
on
ces
nous
cas-là...
dit... Oui.
Dans ces cas-là, ça on se passe dit... comment, en fait votre maman est toujours là, elle est toujours vivante, elle est...
Pour l'instant, oui, heureusement, mais elle s'inquiète, elle n'endort plus.
Ben oui, c'est normal. Quel âge a-t-elle?
Ses problèmes de dents, 82 ans.
82
ses problèmes
ans.
De dents, la gêne pour manger, ça lui donne des maux de tête.
Mm-hmm. Et quelle démarche vous avez fait auprès de la Sécu alors pour ça?
On appelle, on téléphone, on a envoyé les papiers qu'on nous a demandés.
Oui.
Et puis j'ai regardé encore sur Internet et droit fermé.
Mais il n'y a pas un médecin qui peut témoigner tout simplement de l'existence de votre maman?
Enfin, ça m'a... Oui, oui, je lui ai posé la question au médecin, il ne sait pas trop quoi faire.
Ah bah, il est complètement largué ou quoi, le médecin? C'est son boulot de vous aider. C'est quand même son boulot.
Il n'arrive même pas à... il n'arrive même pas à se... Comment dire? À inscrire son nom sur Internet.
Comment voilà, ça?
Parce qu'il y a toujours le nom de l'ancien médecin qui est parti à la retraite.
Mmh. Oui, mais si ses droits sont fermés, il est tout à fait normal qu'elle ne puisse pas, que lui, quand il veut faire un acte, il ne puisse pas mettre son nom, puisque les droits de votre mère sont fermés. Donc, ça, c'est tout à fait normal, mais les médecins ont un numéro direct avec la Sécu, normalement. Ils peuvent discuter en direct avec eux, puisque c'est quand même un organisme qui leur paye beaucoup de... Enfin, qui leur rembourse les actes. Donc,
oui,
c'est, pour moi, je ne sais pas, je me mets à votre place. Et c'est le premier personnage, le premier interlocuteur qui me semble être le plus logique, non ?
Oui, bien sûr, oui. Alors la Sécu nous dit, ben, vous n'avez qu'à payer, puis on vous remboursera, bien sûr. Le problème, c'est que elle ne sera pas remboursée sur la part mutuelle.
Pourquoi ?
Parce qu'actuellement, elle avait la sienne était, elle avait résilié la sienne pour en prendre une autre. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que on pouvait pas imprimer l'attestation pour la nouvelle mutuelle.
Ah ben oui, non. Si vos droits sont fermés, la mutuelle ne marche pas. Ça, c'est automatique.
Voilà. Donc, si elle paye tout, elle ne pourra être remboursée que sur la part sécurité sociale quand ses droits seront enfin revus.
Oui, et donc ça, c'est pas intéressant du tout pour vous.
Pardon.
Ça n'est pas du tout intéressant pour vous de payer comme ça et d'être remboursée uniquement par la Sécu.
C'est pas normal. Pas normal.
Et pourquoi a-t-elle changé de mutuelle ?
En fait, c'est parce qu'au décès de mon père, elle était, je ne sais pas si on dit bénéficiaire ou ayant droit sur la mutuelle de mon père.
Oui.
Et la mutuelle continuait toujours de prélever, et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était plus, la mutuelle ne l'assurait plus.
Mmh.
Donc on n'a même pas pu être remboursé, on a dû bloquer à la banque. Et donc, elle n'était plus dans cette mutuelle.
D'accord. Donc,
on vient prendre une autre.
Elle s'est retrouvée sans rien du tout, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça, oui.
Qu'allez-vous faire, alors, maintenant, Christine ?
Mais c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'on est complètement démunis.
Eh, mais moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la sécurité sociale, malheureusement.
Et je voulais savoir si, par hasard, quelqu'un avait le même problème qui avait été résolu. Mmh. Ou...
Ben, si vous qui nous écoutez, vous avez la moindre idée de ce que peut faire Christine pour sa maman, vous nous appelez au 01 80 20 39 21 et donnez-nous vos conseils, parce que ça a dû arriver, bien évidemment. Vous pensez quoi que il s'est passé quoi ? C'est une erreur de la sécurité sociale ? Bon, obligatoirement, c'est une erreur, mais qui a pu se passer comment, à votre avis ? Vous avez idée ou pas du tout ?
On me dit que c'est un contrôle qui a été fait et qu'apparemment, on nous a envoyé un courrier qu'on n'a jamais reçu
pour
envoyer des justificatifs comme quoi elle habitait bien en France.
Mais peut-être qu'en fait, elle n'était jamais malade ou elle n'envoyait jamais rien.
Non, c'est ça son problème, c'est qu'elle n'est jamais malade. Voilà.
D'accord, donc c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, la Sécurité sociale s'est dit qu'à force de ne rien recevoir, elle n'était sûrement pas là, en fait.
Mais quand même, en 2019, elle avait eu besoin de la Sécurité sociale.
Oui, ah oui, 2019 quand même.
Elle avait été soin à la... Oui.
D'accord.
Donc on ne sait pas en fait depuis quand ça a été coupé, depuis peut-être presque 3 ans. 2 ans et demi, c'est sûr. Donc quand même, on coupe la Sécurité sociale après 1 an ou 2 ans que la personne a eu des soins.
Bon,
on est dans l'incompréhension totale.
Mais écoutez, si on a des appels pour vous, on ne manquera pas de vous les transmettre, Christine.
Ah, c'est très gentil. Très gentil.
Et puis, vous souhaitez un très bon courage à votre maman, bien évidemment. D'accord ?
Par contre, je préfère qu'on ne donne pas mon numéro de téléphone.
Non, non, on vous mettra en rapport. Vous inquiétez pas. D'accord ?
Très bien.
Bonne soirée, Christine.
Merci beaucoup, Olivier.
Au revoir.
Merci, au revoir. Standing there, there was music in the air. It should have been a wave.
Light Orchestra sur Europe 1 à minuit 34, Last Train to London, 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter. Vous pouvez bien évidemment nous appeler quand vous le voulez. Vous avez été plusieurs à nous appeler ce soir et à nous écrire. Merci pour votre fidélité. Nous accueillons maintenant Anne Bénédicte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Anne Bénédicte.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux auditeurs.
Bonsoir.
Je voulais réagir à propos de la personne qui nous a présenté la défense des enfants dans la première interlocutrice que vous avez eue ce soir.
Oui, qui nous appelait Stéphie, exactement.
Voilà, Stéphie. Mmh. Pour raconter une expérience qui est un petit peu plus ancienne que la sienne, mais qui montre un petit peu aussi un certain nombre de maillons faibles, et en particulier des maillons faibles au niveau de la justice.
Oui.
Actuellement, j'ai presque 70 ans, je suis médecin pédiatre encore un peu en activité.
Oui.
À l'époque, j'étais jeune médecin et je prenais des gardes notamment d'urgence dans un hôpital de la région parisienne, que je préfère ne pas nommer, pour que personne ne puisse se reconnaître. Et j'ai reçu un jour une maman avec trois petites filles qui avaient 7 ans, 3 ans et demi et quelques mois.
Oui.
La maman, manifestement, avait vraiment beaucoup pris sur elle pour venir m'expliquer qu'elle pensait que ses filles étaient victimes d'abus sexuels de la part du père.
D'accord.
Et quand je dis ses filles, je parle bien des trois, y compris du bébé. À ce moment-là, on venait d'avoir une formation en plus dans l'hôpital sur le sujet. Et donc, j'ai expliqué à la maman que je préférais que ce soit ses filles qui me racontent plutôt qu'elle.
D'accord.
Et celle qui m'a le plus parlé, c'est la petite de 3 ans et demi. Mmh. J'ai vraiment utilisé des questions qui étaient le moins directives possible, en lui demandant de me raconter les choses et non pas en lui disant de me répondre oui ou non à mes questions. Celle de 7 ans était complètement fermée au début, un petit peu moins à la fin, mais manifestement ne voulant pas s'exprimer. Donc la petite de 3 ans et demi m'a raconté que le papa venait le soir devant leur chambre, leur faire des câlins, et le genre de câlins il leur faisait. Et bon, je n'étais pas responsable de la garde, il y avait un assistant au-dessus de moi, oui. Donc à la fin d'un temps de questionnaire et de relativement quand même d'examen clinique, je l'ai appelé pour lui demander s'il voulait être présent pour l'examen gynécologique des petites filles.
Oui.
Donc il m'a dit qu'il souhaitait être présent. Quand il est arrivé, la petite de 3 ans et demi n'a plus rien dit et la petite de 7 ans qui commençait à s'ouvrir s'est complètement refermée.
Oui, en présence d'un homme.
Il montrait bien que la présence d'un homme leur était insupportable. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, au point que je me souviens, enfin, c'était dans les années 87-88. Or, je crois que c'était un nom compliqué, mais je crois que je sais toujours le nom de famille de ces 3 petites filles. J'ai quand même passé 1h30 à 2h avec elles, pendant l'interrogatoire. J'ai retranscrit autant que je le pouvais tout ce que je leur ai posé comme question et leurs réponses. Et la justice ne m'a jamais, jamais interrogée.
C'est fou.
C'est-à-dire que le médecin qui était passé 5 minutes pour les voir et constater d'ailleurs qu'il ne pouvait rien faire, c'est lui qui a été interrogé. J'avais quand même au moins 3 ans à l'époque, donc je pense que je n'étais pas une gamine influençable. J'étais quand même médecin depuis 8-10 ans. Je n'ai jamais été interrogée. Il se trouve que cette maman, j'ai eu du mal à ce qu'elle accepte de témoigner et de porter plainte. Et donc, je lui ai expliqué que c'était mieux pour ses enfants et que c'était mieux aussi pour le papa parce que dans ces cas-là, ensuite, il pourrait être soigné.
Oui, en tout cas pris en charge.
Voilà, oui. Mais bon, j'ai essayé de le dire avec les mots qui lui permettraient d'accepter de porter plainte. Donc, elle a été interrogée ensuite par un interne du service de psychiatrie. Puisque moi, j'étais en pédiatrie, donc je ne pouvais pas interroger la mère. Et il y a une chose qu'elle a dit, et qui fait que l'interne de psychiatrie ne l'a pas cru. Elle a dit qu'elle avait aussi l'impression que la petite de 7 ans, enfin la grande, était emmenée par le papa parfois pour faire des courses dans un petit supermarché local.
Oui.
Et prêtée à d'autres hommes pendant ce temps-là.
Oh mon Dieu.
Donc l'interne de psychiatrie a dit elle fabule complètement, d'ailleurs elle aussi elle est suivie en psychiatrie, donc c'est sûrement faux. Le seul problème c'est que dans les jours qui ont suivi, c'est justement ça que certains voisins ont corroboré.
D'accord, donc certains voisins, comment ont-ils pu se
percevoir de ça? Alors je ne sais pas, parce que là encore, je ne suis pas intervenue, enfin on ne m'a pas, je l'ai su, j'allais dire un petit peu par hasard, mais c'est pas du tout moi qui ai recueilli la parole des voisins. On ne m'a pas directement dit ce qui se passait. J'ai quand même appris que le papa prêtait de temps en temps, enfin que allait faire les courses donc avec sa petite fille de 7 ans, et que la petite fille disparaissait avec un des vendeurs de ce petit supermarché dans la réserve, qui revenait après.
Et cette petite fille de 7 ans, vous avez fait part, elle aussi, hein, de...
Non, elle ne voulait rien dire. Mais je peux vous dire que la libération de la parole, même si ce n'est pas elle qui a parlé, a été tellement forte que pendant l'hospitalisation, les jours suivants, elles sont restées à peu près 2 mois. Hein. Mais en tout cas, au moins pendant les 15 jours qui ont suivi, quand elles me voyaient apparaître, les deux grandes, elles couraient, elles traversaient tout le couloir pour me sauter dans les bras.
Oui, donc elle vous avait bien identifié comme étant quelqu'un...
Qui avait pu libérer la parole.
Oui, en qui elles avaient confiance. C'est la seule fois où vous avez été...
Avec quelque chose d'aussi lourd, oui.
Ouais.
Et vraiment, j'ai été extrêmement choquée de cette, de ne pas du tout avoir été interrogée. On m'a même pas demandé si la manière dont j'avais retranscrit les choses était exacte ou pas.
Vous voyez, c'est incroyable, mais ça montre quand même qu'il y a encore un flou qui entoure ce type d'histoire, en fait.
Non seulement ça, mais je vais quand même vous donner la conclusion, au moins provisoire, de cette histoire. Le papa a été condamné à 6 mois d'éloignement de sa femme et de ses filles.
Donc, c'est tout, en fait.
C'est tout. Imaginez un peu ce qu'il a pu se passer au bout de 6 mois quand, en plus, il avait à se venger d'avoir été dénoncé. Moi, je n'ai jamais osé imaginer.
Imaginez quoi ? Je n'ai pas compris, pardonnez-moi.
Ce que le papa a pu vouloir faire subir à sa femme et à ses filles d'avoir osé le dénoncer. Puisque au bout de 6 mois, il a eu le droit de reprendre toute sa petite famille.
Oui, et puis il n'a surtout pas fait de prison. Enfin, donc la peine, il n'y a même pas eu de peine. Donc ça veut dire que ça l'a conforté.
Mais oui, mais enfin, il y a des voisins qui l'ont su. Donc sa réputation, bon, moi je pense qu'il avait qu'une envie, c'est de se venger quand même quelque part.
Oui, ça c'est certain. Mais ce qui est incompréhensible dans cette histoire, tout de même, Anne Bénédicte, c'est que il n'a pas été incarcéré, il n'a pas été condamné du tout. Ça veut dire que on n'a pas cru les enfants.
On n'a pas cru les enfants, mais on ne m'a pas interrogé sur la manière dont elle m'avait parlé non plus. Donc, on a sans doute pensé que moi, j'avais interprété ce qu'elle me disait. Enfin, j'en sais rien, puisque je n'ai pas été interrogée.
Je pense que la responsabilité dans cette affaire de votre collègue qui était en psychiatrie et qui n'a pas cru la mère a beaucoup pesé dans la suite des événements, parce qu'imaginez qu'il ait produit un avis plus que doutant de la parole de la mère. Vous savez, après, vous savez,
parce qu'il est sorti de l'interrogatoire avec la mère en disant mais elle est complètement folle, elle m'a raconté des choses.
Oui.
Donc, il ne la croyait pas du tout, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la responsabilité du responsable de la garde de pédiatrie qui, à aucun moment, n'a mis en avant le fait que je pouvais répondre à certaines questions. Mmh.
Est-ce que vous pensez que tout ça correspond à une époque ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation de signalement lorsque un médecin...
Alors, il y avait déjà l'obligation de signalement, mais je pense qu'on croit plus maintenant la parole des enfants qu'à l'époque.
Oui, c'est ça.
C'était bien avant Outreau et toutes ces choses-là.
Ouais.
Hein,
mais oui, puisque Outreau, c'était 97. Donc,
c'était 10 ans plus tard.
Oui. Mais vous qui...
Mais ça montre quand même à quel point la justice est encore faite à l'envers. C'est-à-dire, c'est à la victime d'apporter la preuve.
Oui.
Si la victime est mineure, on croit ou on ne croit pas.
Oui, et pour peu, en plus qu'on ait la parole d'enfant qui soit fragile, comme vous semblez les décrire, apeuré dès qu'on avait la présence d'un homme... Ça paraît évident que elle était fragilisée, cette parole, déjà.
Oui.
Mais vous qui êtes encore un peu en exercice, il y a quand même un sacré tabou sur tout ça en France encore aujourd'hui. On est mal à l'aise avec ces histoires d'inceste.
Alors, on est mal à l'aise, mais moi, personnellement, bien que pour des tas d'autres choses, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire, je trouve que la justice est quand même victime de ce tabou et ne fait pas ce qu'il faut pour aller au-delà. Victime.
Qu'entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que je pense que la justice a une grosse part de responsabilité. En n'ayant pas été jusqu'au bout de l'enquête, en ne m'interrogeant pas, par exemple, et en ayant si peu... En n'ayant pas écarté le père plus que 6 mois, c'est complètement aberrant.
C'est aberrant. Et comme vous dites, on peut imaginer ensuite la reprise tranquille de ce père rentrant dans ses pénates et faisant payer à tout le monde ce qui avait été dit. C'est ça qui est très grave là-dedans.
Oui.
Ouais. Et vous n'avez plus jamais entendu parler de cette famille, donc ?
Non, malheureusement.
88, c'était, vous vous rendez compte ? Donc ces femmes, maintenant, ces petites filles sont devenues des femmes. Comment on peut évoluer dans la vie ? Bon, on avait Lily tout à l'heure qui témoignait aussi de l'inceste qu'elle avait vécu à 5 ans de la part de son père et de son frère. De toute façon, c'est quelque chose qui est très répandu. C'est malheureusement, depuis le temps que je...
Alors, à l'époque, on disait encore que ce qui se passait vers l'âge de, justement, avant l'âge de 6-7 ans était souvent quelque chose qui était oublié ensuite et que l'enfant pouvait tout à fait se reconstruire. Et actuellement, on dit un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit que cette parole-là, surtout si elle n'a pas pu s'exprimer, entraîne vraiment des graves problèmes chez l'adulte.
Ah ben c'est, oui, oui.
Et c'est pour ça que quelque part, je suis contente qu'elles aient au moins pu s'exprimer une fois et qu'elles aient vu au moins une personne les croire.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais je n'ose pas imaginer effectivement les... Et je pense qu'il est très très important, même encore aujourd'hui pour le coup. Je trouve que les personnes qui écoutent un enfant ou un adulte, même enfin, ayant vécu des traumatismes de ce genre dans l'enfance, les paroles qui sont utilisées sont extrêmement importantes.
Complètement.
J'ai vu aussi, dans d'autres circonstances, une jeune femme qui disait qu'elle avait été abusée étant toute petite, et le tout dans un groupe soi-disant de, pardon pour le soi-disant, d'habitude c'est beaucoup plus vrai que cette fois-là, de guérison spirituelle. Mmh. Et l'animateur de ce groupe, qui était un homme et qui était un prêtre, la seule réponse qu'il a fait, c'est « Oh mais c'est de ta faute parce que tu n'en as pas parlé à tes parents ».
Mais bon, c'est facile comme ça de remettre en doute la parole de l'enfant et puis de porter la responsabilité sur l'enfant. Tu aurais
bien
dû,
sûr,
mais je pense qu'il faut se mettre à la place de toutes ces petites victimes qui sont censées être protégées par la référence de l'adulte qui se transforme d'un seul coup en un prédateur.
Puis surtout que c'était une époque où on n'en parlait pas du tout.
En plus, 88, oui, ça devait être...
Oui, et puis dans le deuxième exemple que je vous citais, c'est des histoires encore beaucoup plus anciennes. Mais je trouve qu'en répondant ça, ce prêtre, il est presque aussi coupable que le prédateur initial. Parce qu'il a une deuxième fois entraîné le traumatisme en disant « c'est ta faute ».
Oui, un prêtre en plus. Bon. Encore une fois, des adultes qui, comme
dans
ça...
Dans un groupe de guérison spirituelle, je précise.
En plus.
Pas un prêtre comme ça, en passant.
Plus, ouais, ouais.
Donc, en groupe, en public, en tout ce que vous voulez.
Avec quelqu'un censé être au courant des choses et avoir plus ou moins une formation par rapport à ça. Non.
Oui.
Ouais. C'est affligeant. Et ça montre combien c'est compliqué, encore aujourd'hui, de faire vivre la parole et que cette parole soit entendue, résonne et soit crédible.
Mais je crois que c'est très très important. C'est la manière dont on sait accueillir cette parole, dont on sait montrer qu'on est ouvert pour entendre. Mmh. Même si on a des doutes, ce qui peut arriver, avant de montrer nos doutes, il faut déjà montrer qu'on est ouvert pour entendre.
Oui, complètement. C'est primordial même. C'est la première chose à... que la victime doit détecter, c'est qu'on l'entend, on l'écoute. Vous avez raison. Merci Anne-Bénédicte pour votre témoignage, en tout cas, ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Mais vraiment, d'abord, moi, je voulais dire bon courage à Stéphie, parce que le travail qu'elle fait, c'est formidable. Et puis, si j'ai un deuxième message à faire passer, c'est justement ça. Soyez à l'écoute, quand vous entendez quelque chose. Et avant de montrer votre doute, montrez votre accueil de la parole.
Oui, complètement.
Et ça vraiment, merci pour votre émission, parce que c'est un des endroits où, justement, même quand les gens racontent des choses qui sont parfois abracadabrantesques, comme dirait un de nos anciens présidents, vous montrez une écoute qui est assez exceptionnelle. Alors,
il le faut, il le faut. Il le faut, Anne-Bénédicte.
Mais merci. Merci.
Je vous en prie. Merci à vous. Passez une bonne soirée, Bénédicte.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons France pour finir cette émission. Bonsoir France.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous France ?
J'ai 23 ans et je vous appelle de Bretagne.
De Bretagne, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Je suis déjà passée plusieurs fois même avec vous.
Oui.
Et en fait, c'était pour parler de ma maladie neurofonctionnelle psychogène. En fait, c'est une maladie très rare et très très peu connue en France.
Oui.
C'est une maladie qui fait faire des malaises et faire des crises, comme des crises d'épilepsie, mais ce n'est pas de l'épilepsie. Et en fait, ça fait des convulsions aussi.
Oui.
Donc c'est assez impressionnant à voir.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est dû à mes traumatismes, parce qu'en fait, j'ai été violée plusieurs fois en étant plus jeune. J'ai été agressée à partir de mes 3 ans par mon demi-frère. J'ai eu pas mal de traumatismes sur plein de choses. Et donc, du coup, en fait, ça a fait que j'ai fait l'hypnose.
Oui.
Et une semaine plus tard, jour pour jour, la maladie s'est déclenchée. En fait, je faisais 30 à 40 malaises par nuit. Et donc, du coup, ça faisait que ma mère s'est un peu inquiétée. J'ai été hospitalisée. Et la neurologue m'a dit, en gros, bah, c'est une maladie rare, très peu connue, et on ne peut rien faire. Donc, en fait, je suis un petit peu laissée à l'abandon parce que je ne peux plus sortir seule parce que je suis en malaise. J'ai essayé hier de sortir seule, j'ai fait un malaise, donc ma mère était obligée de venir me chercher.
Mm-hmm.
Je ne peux plus être seule dans la rue parce qu'une fois, je me suis cassé la figure. Enfin, j'ai fait un malaise derrière un bus. Donc, si le bus reculait, il m'écrasait. Donc, en fait, ça fait que, du coup, je fais plein de malaises.
Oui.
Sans qu'on m'aide, parce qu'on m'aide pas, la neurologue m'aide pas. Elle me dit de faire de la méditation et d'hypnose, mais sauf que ça n'aide pas non plus.
Ça ne vous aide pas non plus, du tout ?
Du tout. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, j'ai que 23 ans, j'ai beaucoup de maladies, je suis autisme-spectre aussi, je suis bipolaire, je suis borderline, j'ai pas mal de maladies, donc du coup pour moi c'est très difficile.
Vous êtes, êtes agoraphobe un peu aussi, vous avez peur lorsque vous sortez comme ça et que vous faites des malaises, c'est la peur du contact avec l'autre qui vous...
Oui, j'ai la phobie sociale.
Oui. Et à la maison, ça va quand même, plus ou moins, quand vous êtes dans un milieu sécurisé, comment ça se passe ?
Bah, je fais quand même des malaises. Et mes malaises, des fois, je les sens venir, donc je me mets dans un endroit pour pas tomber ou pour pas me faire mal. Et des fois, par exemple, hier soir, je me suis complètement écroulée sur ma mère.
Et vous l'aviez senti venir, ça ?
Non, du tout, je ne l'ai pas senti venir, c'est arrivé comme ça, d'un coup, d'un seul.
Et il n'y avait pas un événement particulier qui vous a impressionné ?
Non.
Non,
non, du tout. C'est vraiment... ça peut être des fois quand j'ai mal, ou quand je suis stressée, ou quand je suis fatiguée, mais des fois, c'est souvent, ça arrive comme ça, d'un coup, d'un seul, je tombe et... Bon, en gros, c'est comme si mon cerveau se déconnectait et je tombe et il n'y a plus rien. Et ce qui est très bizarre, c'est que juste après, je me réveille de mon malaise.
Oui.
Et tout va bien, comme si c'était rien passé.
Oui, d'accord. Ouais, c'est très, très handicapant, dites-moi, ma pauvre.
Bah oui, c'est très, très handicapant.
Vous aviez été hospitalisée à un moment, non ?
Oui.
C'est ça, vous m'aviez appelé pour me dire que vous partiez 15 jours ou 3 semaines en clinique de repos, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui, je vous avais appelé pour
et
ça.
Et vous
oui.
m'aviez donné plutôt des bonnes nouvelles, ça allait mieux suite à cette hospitalisation.
Oui, ça allait mieux, et ça va toujours mieux.
Ça va toujours mieux quand même, vous êtes mieux, vous sentez ?
Oui, oui.
D'accord. Et vous êtes dans quelle région ? Vous êtes en Bretagne, hein, c'est ça ?
Oui, je suis à Vannes.
D'accord. Donc, le tout, c'est d'arriver à stabiliser tout ça. Votre neurologue, vous la voyez tous les combien, en fait ?
Bah là, ça fait 2 mois que j'essaie de l'avoir, mais normalement, c'est tous les 6 mois à peu près.
D'accord. Et là, les malaises que vous faites, c'est plutôt calme en ce moment quand vous dites que vous avez stabilisé ou c'est moins, vous en
non,
faites moins.
Non, ça peut être vraiment des malaises très forts, très impressionnants.
Ouais. Donc ça vous.
J'ai les yeux qui révulsent, j'ai tout qui révulse et c'est très impressionnant. Donc du coup, je suis toujours avec ma mère, du coup,
oui.
Ou sinon avec des amis, mais même avec des amis, j'ai peur de faire des malaises. Mm-hmm. Ils savent toujours quoi faire, donc du coup, j'ai de la chance. Mais
ouais,
du coup, ça fait que je ne peux pas couper le cordon non plus avec ma mère.
Mais oui, je comprends. Et vous avez quand même pas mal d'amis qui viennent vous voir, qui s'occupent de vous un petit peu?
J'ai surtout un ami et une amie,
oui.
Sinon, non. Sinon, ils n'habitent pas à côté de chez moi.
D'accord, mais vos deux amis, vous les avez rencontrés où, par exemple?
Il y en a une que j'ai rencontrée grâce à sa sœur, et après un autre, à l'hospitalisation que j'avais fait de repos, j'ai rencontré là-bas. Et on est venus très, très amis.
D'accord, ça aide, ça, hein, ça.
Oui.
Ouais. C'est quelqu'un qui partage un peu les mêmes problématiques que vous, du coup.
Oui,
d'accord.
Oui.
Bon, mais c'est bien. Vous comptez refaire une hospitalisation bientôt ou répéter les hospitalisations pour voir si ça va vous faire du bien?
Bah non, parce que je sens que ça me ferait plus de mal qu'autre chose.
D'accord, d'accord. Vous êtes bien à la maison avec votre mère en ce moment. Ça va bien.
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Et votre maman, elle fait quoi dans la vie?
Ma maman, elle est handicapée. Donc, elle ne peut pas travailler.
Oui. Donc, vous pouvez vous en occuper un peu aussi?
Oui, 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 je m'en occupe.
D'accord. Bon, ben ça, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées, alors, en ce moment, France?
Bah là, j'ai pris... Je suis un peu sur un coup de tête. Je me suis inscrite pour faire des cours de danse afro, des cours de danse africain.
Oui.
Et j'en ai fait un tout à l'heure. Je n'ai pas fait de malaise. Et ça s'est très, très bien passé.
Vous deviez être contente de ne pas avoir fait de malaise.
Oui, j'étais très contente.
Bah c'est super, ça. Il faut, comme ça, hein, il faut faire des petites activités. Hein, il faut essayer de faire des petits trucs progressivement, comme ça, voir vous habituer. Et puis, petit à petit, vous allez voir, ça va aller mieux. Hein, voilà,
oui,
buvez un petit verre d'eau, là.
Ouais, je pense.
Bah oui, parce que vous êtes en train de vous étouffer, là.
Non, c'est que j'ai une bronchite.
Bon. Bah écoutez, je suis ravi de vous avoir eu au téléphone et voir que ça va mieux. Je vous embrasse, soignez-moi cette bronchite et puis vous me redonnez des nouvelles, d'accord?
Pas de souci, merci beaucoup.
Je vous embrasse. Bonsoir France, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre Antenne. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Bien évidemment, vous le savez, nous nous retrouverons demain soir à partir de 22h15. En attendant, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Et puis, pour les oiseaux de nuit, chaque soir, je vous le dis, les programmes de la nuit continuent sur Europe 1. Dans quelques instants, je vais vous laisser avec